Et maintenant, un bon boîte de cast.
Voilà, et donc, je m'assieds à une table et je suis en face de Monsieur Dungeon Twister. Est-ce que c'est juste ?
Monsieur Dungeon Twister, non, oui, enfin bon, c'est le jeu qui est le plus réputé que j'ai fait, mais j'aimerais pas avoir l'étiquette d'être que Monsieur Dungeon Twister, parce que j'ai quand même fait pas mal d'autres jeux qui sont totalement différents, que ce soit pour enfants, jeux abstraits ou monstres folie.
Alors allons-y, donc je n'ai rien dit, et donc passons à la présentation. Qui êtes-vous ?
Christophe Bollinger, ex-Monsieur Dungeon Twister, depuis 2 minutes.
Là, c'est incroyable, ça va à une vitesse.
C'est vrai, créateur de jeux depuis l'enfance.
Et donc, un exemple, qu'on situe exactement qui tu es alors ?
J'habite à Nice, donc je suis français. Glisseur aussi à côté en temps libre, je suis un peu fan de tous les sports de glisse, sur eau, sur neige, sur macadam. Et puis en tant que joueur, je suis un énorme ludovore. Je joue quasiment à tout, des jeux de cartes, jeux de figurines, jeux de plateau, jeux de rôle. J'ai joué, je joue beaucoup de choses. J'ai une ludothèque d'à peu près 1500 jeux de société.
Correct. Et donc tu glisses sur les jeux de plateau aussi ?
Oui, tout à fait. J'ai même fait un jeu chez Tilsit dans les tout débuts qui s'appelait Snowboard. Et voilà, où j'avais réussi à mettre sur le plateau mes courses de glisse sur la neige.
Pas mal, il faudra qu'on cherche ça. Alors, la raison de ta présence ici ?
Alors, elle est multiple. Le championnat de France de Dungeon Twister qui se passe à Lille et où ils ont explosé le record de participation, je crois, avec 32 joueurs. Ce qui est le plus gros tournoi là, qu'il y a aujourd'hui à l'Asmodée. L'Asmodée, donc pour être présent pour les joueurs et tout ça. On a la première réunion de la Fédération de Dungeon Twister International qui est en train de se monter parce qu'ils vont prendre le relais sur tout ce qui est jeu organisé et tout ça. Les Belges sont extrêmement actifs, c'est parmi même les plus actifs au monde, je pense, dans la communauté de Dungeon Twister. Donc c'est eux qui sont les piliers de la Fédération. Et donc ma présence quand même était importante pour cet événement.
Oui, tout à fait. Alors en deux mots, moi qui suis un néophyte de Dungeon Twister, j'avoue, c'est pas bien, mais voilà, c'est quoi ?
Alors, c'est un jeu qui est à la croisée de 5 univers de jeux, grands univers de jeux, je dirais, qui sont les jeux de plateau, les jeux de figurines, les jeux de rôle, les jeux abstraits comme les échecs, parce qu'il n'y a pas de hasard, et Magic the Gathering, tout jeu, je dirais, où on construit son deck, parce qu'on construit son équipe. Dès qu'on a au moins une extension, et le jeu de base, on peut commencer à construire son équipe comme on construirait un deck de Magic. Les jeux de rôle, parce que tout le jeu m'a été inspiré par mon ancien background de Donjons et Dragons. Jeux de plateau parce que ça joue sur un plateau et jeux de figurines parce qu'on peut jouer avec des figurines comme dans Space Hulk ou tous les jeux de figurines à la Thanoser et tout ça.
Ok, et donc tu parles de championnat de France, hein, pas encore championnat du monde, championnat de la francophonie. Donc okay, pourquoi est-ce qu'un jeu comme celui-là devient championnisable, on va dire ?
En fait, parce que dès le début, quand j'ai créé le jeu, on s'est rendu compte que comme c'est un jeu où il n'y a pas de hasard, si on ne met pas de timer, de sablier pour jouer, un joueur peut passer 25 minutes sur son coup à analyser toutes les possibilités et pour au final choisir celle qui lui semble la plus performante. Et donc ça tuait le jeu, ça le ralentissait. Donc dès le début, on a commencé à jouer avec un chrono à 2 minutes par tour. Et là, on se retrouvait avec le speed dans un dungeon crawler, dans les couloirs, à avoir le stress et devoir courir. Et on s'est rendu compte que quand on jouait des parties à deux, finalement, la partie la plus courte, elle se pliait en 15 minutes, quand un joueur écrasait totalement l'autre. Et les plus longues duraient 40-45 minutes. Et donc c'est exactement un format idéal pour enchaîner 4-5 parties dans la journée, quoi, pour un tournoi.
Alors c'est un jeu, quand on se le procure, on peut y jouer directement. Est-ce qu'il y a un côté extension ou des choses qu'on peut rajouter au jeu pour améliorer son deck ou ses personnages ou ses rencontres ?
Voilà. Alors en fait, le jeu de plateau de base, à lui seul, moi j'ai fait quelque chose, j'avais quantifié au début, mais j'ai dû dépasser les 1500 parties sur le jeu de base. Et je n'ai jamais vu une partie identique. Du fait que le plateau, ça s'appelle Dungeon Twister parce que les salles peuvent tourner, elles twistent sur elles-mêmes. On est dans un monde heroic fantasy et steampunk où tout est activé par la vapeur. C'est un peu comme si vous étiez sur un jeu d'échecs, il y a des gens qui le comparent à ça, où les pièces sont toujours différentes, sont jamais au même endroit, et où les salles et où le plateau est mouvant. Donc, en termes de richesse de partie et de possibilités, on est largement au-dessus des échecs. D'accord ? Donc, si j'étais franc, je dirais qu'un joueur qui découvre Dungeon Twister, il peut jouer sur le jeu de base pendant 2 ans, 3 ans, en faisant une partie par jour, et il n'en verra pas le bout déjà, et il ne le maîtrisera déjà pas à fond. Les extensions sont là pour être jouées. Chaque extension peut être jouée en stand-alone, c'est-à-dire toute seule. Il y a tout l'équipement nécessaire, 8 nouvelles salles, 8 nouveaux personnages, 6 nouveaux objets. Donc quand un joueur prend une nouvelle extension, il va la jouer une dizaine de fois, peut-être toute seule. Et après, tout est mixable entre eux, en mélangeant les salles, en faisant son équipe. Et l'équipe se constitue, mais en un claquement de doigts, parce qu'il n'y a pas de valeur de points des personnages et tout. Les règles sont simples, tu choisis 8 personnages, 6 objets, 4 salles, pas de doublons. Tu n'as pas le droit de venir avec 2 trolls. Donc, on peut se retrouver là, on a 3 boîtes, on se dit tiens, on se fait un full frontal, voulant dire on mélange, on crée notre équipe chacun dans notre coin secret, et on va mettre tous les deux 3 minutes chacun dans notre coin à faire notre équipe. Alors que moi qui suis un gros joueur de Magic, pour construire un deck de Magic, ce qui est un jeu fabuleux, mais on met quand même, moi je mets une grosse soirée, voire même une nuit à construire un gros deck, en le réfléchissant bien.
Je vois. Effectivement, ça a l'air intéressant. Il va falloir que je jette un œil. L'actualité directe d'un jeu comme celui-là, dans un futur très proche, c'est quoi ?
Alors, le futur le plus proche, c'est la sortie c'était en octobre, ça a été repoussé d'un mois pour quelques délais de fabrication. On a Terre de Glace, qui est la 8e extension, déjà, qui sort en France, en Belgique aussi, mais en version française, en novembre, maintenant. On a en Allemagne, ils viennent d'avoir la version 3-4 joueurs. Ils vont avoir Puissance des Ténèbres. Les autres pays, pour une fois, on est en avance sur eux, on a tous un décalage. Ils vont avoir Puissance des Ténèbres en décembre, je crois, avant Noël. Aux États-Unis, va sortir Mercenaires. Eux aussi, ils sont en décalage, mais plus avancés que les Allemands. Et après, je travaille sur une bande dessinée. On a le dossier bientôt complet qui est prêt. On va présenter ça à Soleil. Donc qui décrit tout le background, tout l'univers de Dungeon Twister que je n'ai pas pu décrire dans les règles du jeu parce qu'il n'y avait pas de place, et que moi je suis un gros fan de BD et j'ai trouvé un dessinateur qui est super, qui assure, qui est un jeune qui n'en veut et qui a du talent. Et donc voilà, on compte essayer de sortir la BD en 2 volumes déjà, la première histoire, et si ça marche, on continuera. Après, il y a une version online, il y a plein de projets de versions non encore officielles, Xbox ou d'autres choses, voilà. Ça, je peux pas encore trop en dire, c'est pas fait, mais ça bouge énormément. Je commence à être de plus en plus sollicité pour faire des versions informatiques sur diverses plateformes et sur divers formats, partant du jeu de plateau de base à plat jusqu'au pur FPS où on va se balader dans les couloirs, voilà.
Ça, c'est quand même assez étonnant. On a vu en très peu de temps les Colons de Catane passer sur Xbox. Mmh. On a vu Carcassonne passer sur Xbox. Maintenant, on n'en a pas parlé, mais on pourrait imaginer que. Qu'est-ce que tu penses de cette transformation? Enfin, on avait du Warcraft qui passe sur des jeux de plateau. Maintenant, on a des jeux de plateau qui passent en tel quel dans un jeu vidéo.
Bah, la croisée des différents univers de loisirs, on va dire, pour être large, entre la BD, les figurines, le plateau, le jeu vidéo, ça a été plus ou moins de tout temps. Mais de nos jours, maintenant, ça va beaucoup plus vite, sûrement à cause de l'Internet et de tout ça. Et du fait que tous ces jeunes ou ces joueurs et tout, on a tous, la plupart des joueurs, ils sont fans de BD, c'est souvent ça va avec. Donc c'est un peu intrinsèque, c'est inévitable, je pense. Et je pense que ça peut faire que du bien au jeu, parce que le joueur qui va lire la BD, il va revivre tout ce qu'il vit dans le jeu de plateau. S'il n'arrive pas à trouver d'adversaire... Alors moi, à la base, j'étais vraiment pas pour scotcher des joueurs derrière des écrans. Mais maintenant, je me dis que c'est vrai, de plus en plus, je vois sur le net, sur le forum de Dungeon Twister, des gens qui adorent le jeu et qui vivent un peu dans un patelin paumé, ils n'arrivent pas à avoir de partenaire. Donc je me dis que ces pauvres gens, effectivement, s'ils sont derrière une console, mais qu'ils ont le casque et le micro et qu'ils peuvent se parler, voire même, on m'a dit que sur la Xbox, maintenant, on pouvait avoir une petite webcam et voir la tête du gars sur le côté. Bon, c'est vrai qu'il n'y a plus le contact humain direct, mais il y a quand même beaucoup de choses. Et là où un joueur avait rien dans son patelin perdu, on va dire, s'il peut au moins avoir ça, je pense que ça n'est que bien. Maintenant, ce qui me gênerait, c'est que tout le monde se retrouve derrière des écrans et plus personne devant un plateau. Là, j'aurais raté le coche, je pense.
Il faut se rencontrer à un certain moment quand même.
Mais je pense qu'on n'en arrivera pas là, parce que les joueurs aiment toujours se rencontrer. La preuve, là, ils se déplacent. Il y en a qui viennent d'Avignon jusqu'à Lille pour faire le tournoi de Dungeon Twister. Il y a des Belges qui sont venus, ça vient de Paris, ça vient de Bordeaux, ça vient un peu de partout. Donc je pense que c'est pas parce qu'ils auront la console qu'ils se rencontreront plus, quoi.
Joli. Non, c'est vrai, mais c'est sympa de voir justement ce mélange qui se fait et qu'en fait, c'est pas pour ça qu'on s'abrutit devant un écran, on finit toujours par rencontrer des gens derrière, donc ça c'est quand même intéressant. Tu as parlé des différents pays dans lesquels on trouvait Dungeon Twister, on peut parler bêtement en chiffres, un nombre de boîtes et le prix d'une boîte.
Bah, le prix d'une boîte, le jeu de base est à 29 et quelques, donc on va dire 30 euros, ça c'est le prix officiel, hein. Après, ça peut fluctuer selon le magasin ou les sites internet, je dirais. Le prix d'une extension, ça varie, ça dépend de ce qu'il y a dedans, mais en général, c'est dans les 20 euros. Sachant qu'une extension, comme je disais tout à l'heure, c'est en fait tout un stand-alone complet. Il manque juste les cartes qui servent aux deux joueurs qui sont dans le jeu de base. Donc voilà, ça c'est pour les prix. Pour les quantités, j'ai pas ça à jour, mais je crois que la dernière fois que j'avais regardé, j'avais fait le cumul mondial ou quoi, ça devait être il y a 6 mois ou peut-être un an, et on avait dépassé les 120 000 ou les 100 000. 120 000, je crois qu'on avait dépassé. Donc je sais pas, grosso modo, je dirais peut-être aujourd'hui on en est à 100, 150 ou quelque chose comme ça. Pour un jeu de ce type-là, c'est beaucoup, parce que c'est quand même un jeu de joueurs. C'est un jeu qui demande concentration et c'est pas aussi simple que les Colons de Catane, par exemple.
Là, et la démarche justement de ton idée, donc tu avais déjà une forte expérience en création de jeux, mais de ton idée à l'édition, la création, ça s'est passé à travers quelle ligne directrice ?
L'idée de base vient du fait que quand je jouais au jeu de rôle, quand j'ai découvert le jeu de rôle à 12-13 ans, et jusqu'à l'âge de 20 ans, j'ai beaucoup joué au jeu de rôle, et j'étais toujours maître, et j'en avais marre d'être maître. Et quand je passais joueur, tu connais ? Quand je passais joueur, je m'amusais pas autant que ce que je voyais les joueurs s'amuser quand moi j'étais maître. Donc je sentais une grosse différence. Et j'ai toujours rêvé toute ma vie d'un jeu où on soit à la fois maître et à la fois joueur. Et ça, ça n'existait pas. Et j'ai pris des notes, j'ai créé des jeux d'Heroic Fantasy, j'ai des dossiers, des pochettes avec plein de notes. Et j'ai jamais réalisé physiquement ces prototypes, ces jeux. J'ai fait quelques jeux d'Heroic Fantasy, mais jamais celui-là dont je rêvais. Et puis ça s'est débloqué un beau jour, donc en 2003. Oui, j'ai eu un flash et voilà, Dungeon Twister est né en une soirée presque, hein, et j'ai même pas regardé les notes et tout ça. Et quand j'ai joué la première fois, en mélangeant les extensions, en fait, du fait que tu montes ton équipe, que tu amènes 8 persos, 6 objets, 4 salles, l'air de rien, tu construis la moitié du donjon, tu amènes la moitié des trésors et tu amènes la moitié des monstres et des personnages qu'il y aura dedans. Donc tu es moitié maître de jeu et l'autre moitié, tu ne la connais pas, c'est ton adversaire qui l'amène, il faudra la découvrir, il faudra gérer avec et t'en sortir comme tu peux. Donc quand j'ai fait mes premières parties et que j'ai vu qu'on mélangeait les boîtes, j'avais ce feeling que je recherchais tout le temps. C'est pas un vrai jeu de rôle. Mais on est moitié-moitié. Chaque joueur est moitié maître, moitié joueur, en fait. Donc c'était ça le but. Et c'est quand j'ai mis le doigt là-dessus, je me suis dit, oula, ça y est, j'ai mis le doigt. Et en plus, comme j'ai voulu tuer le hasard, parce que je supporte pas trop le hasard, j'ai en plus amené cet ingrédient que certains dénigrent d'ailleurs, parce qu'ils disent, oh, c'est comme les échecs, c'est un jeu abstrait. Ça, c'est ce qui me fait le plus mal. Parce qu'ils ont plus trop d'imagination. Et quand on joue des jeux à l'allemande, de comptables avec beaucoup de calculs, ça, je trouve qu'ils sont à la limite même plus abstraits, et je vois pas les gens rigoler autour de la table. Tandis quand on voit des vrais joueurs Twister qui jouent, même s'ils réfléchissent et tout ça, quand ils voient une scène un peu tarée qui se passe avec des magiciens qui volent, qui fait ci, qui fait ça, qui balance sa boule de feu à la fin, on le sent, on le voit, ils la vivent la scène comme on la vivrait dans un jeu de rôle, quoi. Donc voilà, l'objectif c'était ça. Après, dans l'histoire, tu parlais d'édition, ben, j'ai présenté ça à Croc à un festival de Cannes 2003, donc je pense, ou peut-être 2004, non 2003. Et c'était marrant parce qu'il y avait Didier Guizrix, rédacteur de Casus Belli, tout quelqu'un de connu, Nicolas Benoît, donc qui est d'Asmodée aussi, qui est à la com, et Croc qui ont joué ensemble. J'ai pas voulu jouer avec eux parce que je connaissais trop le jeu et j'allais faire unbalancer le jeu. Je leur ai expliqué, je les ai laissés jouer, je suis parti, je me suis baladé en Cannes, dans le festival, et je suis revenu donc au bout d'une demi-heure, et ils étaient en train de plier, ils avaient fini, et j'ai dit à Croc, ça m'est resté, je lui ai dit, mais alors qu'est-ce que t'en penses ? Ah, il m'a dit, ah, mauvaise nouvelle. Et moi j'étais super surpris parce que je connais quand même un peu Croc, je sais ses goûts, et j'étais certain qu'il allait craquer sur ce jeu. Et je regarde avec des gros yeux en disant, quoi, qu'est-ce qu'il y a, t'as pas aimé ? Il fait, non, à partir de maintenant t'as plus ton jeu. Et là ça m'a fait rire parce qu'il m'a dit, garde le proto, et en plus c'était le seul que j'avais. Je dis, oh non, tu me le prends maintenant. Il fait, oui, je remonte avec. Et c'est vrai que Croc a fait énormément de travail en interne chez Asmodée parce que c'était vraiment lui qui croyait beaucoup, et d'autres personnes, sans les nommer, au sein de la société, pensaient que c'était un jeu old school et tout. Il y a cru, il a fait du forcing. Il y a même eu un moment où j'ai eu des noms et des noms, et au final il a vraiment fait du forcing, il a fait passer, et je pense qu'aussi bien Asmodée que moi, ben, on en est content aujourd'hui, quoi. C'était une chance à tenter.
Encore une fois, une belle histoire.
Ouais, à partir de maintenant tu l'as plus, la mauvaise nouvelle.
C'est ça, quoi. Eh ben, un grand merci. Je passerai sans doute autour des tables pour voir ce que c'est exactement de jouer à Dungeon Twister. Mais en tout cas, effectivement, j'ai l'eau à la bouche maintenant.
Ben merci beaucoup. Et puis, ben, je viendrai écouter les podcasts alors.
Grand plaisir. Merci beaucoup.
Au revoir.